Même sur Bereshit, Yergem Yonatan, Bechuchmeta bara Alma. Dans le Targum Yonatan, il a traduit Bereshit bara Elohim, il a traduit Bechuchmeta bara Alma. Et ça correspond à la Gemara dans Sanhedrin. Zou midato shel HaKadosh Baruch Hu. Shebara et kol haolam bechokhma. Donc ici, c'est pas du tout une réchite, c'est simplement une façon de parler de la chokhma avec laquelle HaKadosh Baruch Hu a créé le monde. Et il explique plus en détail, mais c'est pas de ça que je voulais parler ce matin, ce soir. Il y a encore un point très important dans ce Meshech Chochma. Quand la Torah dit, après avoir dit Bereshit bara Elohim, etc., jusqu'à la création du or, de la lumière, et après avoir parlé du Chosher, et Vayavdel Elohim, il a fait la séparation, Elohim a fait la séparation entre le or et le Chosher, et il a donné à chacun son nom. La or kara laila, kara yom, et la chosher kara laila, yom echad. Alors, le Meshech Chochma, il explique qu'est-ce que ça veut dire yom echad, pourquoi c'est pas marqué Rishon. Il dit parce que, comme il dit, Rishon et Sheni, c'est davara mityaches ze la ze, ou magbil ze keneged ze. Bon, c'est une façon de dire qu'est-ce qui vient avant celui qui vient avant l'autre, etc. Mais ici, Abriah shel Or, ici la création de la lumière, Chazal disent Ra'a Shein Ha'olam Kedai Lishtamesh Bo. HaKadosh Baruch Hu a vu que le monde ne méritait pas de pouvoir utiliser cette lumière. Asganzo. Donc, HaKadosh Baruch Hu, il a mis cette lumière de côté. Imken Abriah shel Or, Shenivra b'yom Rishon. Donc, ça veut dire, dit le Meshech Chochma, que la création de cette lumière qui a été créée le premier jour, sur elle, il est dit que HaKadosh Baruch Hu a jugé que les gens ne pouvaient pas, enfin, n'avaient pas suffisamment de mérite ou ils ont suffisamment de démérite pour ne pas pouvoir utiliser cette lumière. Par contre, tout ce qu'il a créé par ailleurs, il l'a laissé à la disposition de tout le monde. Ça veut dire que la lumière qui a été créée ce jour-là, Ayabe Madrega Gvoa Mibriyata Olam. Cette lumière, elle est plus élevée, elle a un niveau plus élevé que tout le reste de la création. C'est pour ça qu'elle n'a pas été conservée comme le reste de la création à disposition enfin, des hommes qui vont venir par la suite. La reine Amar Shu Rak Yom Echad, Shu Echad be Madrega ou Matsavo. Ce jour-là, il est Echad, pas seulement, parce qu'il est pas seulement le premier, il est unique. Il s'est créé ce jour-là quelque chose qui jamais plus n'a été créé. La création d'après, c'est plus du tout la même création. Pas seulement parce que il y a beaucoup de mefarshim qui disent que tout a été créé le premier jour et le reste, c'est en fait une mise en place. Mais lui dit bien plus fort, il dit c'est ce qui a été créé le premier jour, c'est cette lumière et cette lumière, elle est d'une madriga qui est complètement différente de la madriga du reste du monde. Ok, ça c'est le point que je voulais dire sur cette création. Ensuite, Chazal disent que cette distinction entre Rocher et Or, le Rocher, c'est les mas, le Midrash, Chazal disent que Rocher, c'est Maaseh HaRechaim. Il faut faire attention, ils n'ont pas dit que le Rocher, c'est les Rechaïm. C'est Maaseh HaRasha'im. C'est les actes des Rasha'im. C'est ça qui est inacceptable. Évidemment, le or, c'est Maaseh HaTzadikim. Et en gématria, or, c'est la gématria de Raz. Et Raz, c'est le secret. C'est-à-dire que il y a dans ce or qui a été créé, il y a le secret de la création, justement. Et le or, c'est bien sûr une, cette lumière, c'est la lumière de la Torah qui, comme chacun sait, est le plan du monde. Beaucoup il a regardé dans la Torah qu'il avait créée il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas de notion de longtemps, mais bon. Ubara Alma. Les Maasim des Tzadikim, bien sûr, c'est le Tov. Et ce qu'on voit de ce qui est raconté sur ce premier, ce qui est dit de ce premier jour, c'est Vayavdel. Akadosh Baruch Hu a séparé. Jusque-là, il n'y avait pas de séparation. Mais toute cette inyan aussi de Tohu Vavohu qui était sur la terre était soumise à ce Tohu Vavohu qui était un sans limite, un sans ordre, etc. Vayavdel, c'est mettre les choses au clair, en fait. Et mettre les choses au clair, c'est ce que disent Chazal, que l'otov la tzadikim, les traber im arashaim. Il n'est pas bon pour les tzadikim de se lier avec les rechaim. C'est-à-dire quand on dit que c'est pas bien de se lier avec les rechaim, bon, voilà, il faut une séparation. Mais malgré tout, avec tout ça, on dit, Vayere Vayvoker, Yom Echad. Dans ce Yom Echad, il y a à la fois le Chosher et le Or. Mais comment ça se fait qu'on les met ensemble? Alors, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est il ne faut pas devenir chaver avec le rachat. On peut peut-être essayer de l'influencer si on en est capable. Si on n'en est pas capable, c'est extrêmement dangereux, évidemment. Parce que le problème, c'est que si on n'en est pas capable, alors on va être influencé. Alors, bien entendu, on n'a pas le droit. Sur la terre, il est dit que la terre, elle était tohu vavohu. Mais le tohu vavohu ne s'appliquait pas sur Shamaïm. Shamaïm, c'est un truc assez complexe en vérité, parce que on utilise Shamaïm dans l'expression Yirat Shamaim. Mais Yirat Shamaim, c'est la même expression que Yirat Hashem, que Yirat Elohim. Donc c'est comme si on utilisait Shamaim de la même manière qu'Elohim ou Hashem. La terre, elle est Tohu Vavohu, mais pas le Shamaim. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est que le Bereshit dont on nous parle ici, c'est Maaseh Bereshit. C'est pas un événement. C'est pas quelque chose qui a eu lieu une fois. De la Torah, on apprend que Maaseh Bereshit, comme je beaucoup le répète sans cesse. Les choses ont l'air d'être continues, si vous voulez. On a l'impression que, bon, c'est une fois pour toutes, il y a eu création, et puis ça se déroule, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout ce que la Torah nous enseigne. La Torah, elle enseigne que les choses apparaissent comme si il y avait une continuité en quelque sorte. Mais c'est dans une discrétion complète. C'est complètement discret. Le reshit, c'est quelque chose qui se respecte en permanence, pardon, qui se répète en permanence. Donc ça nous concerne. Ça veut dire que nous aussi, comme élément de la création, nous aussi on est recréés en quelque sorte en permanence. On pourrait dire d'ailleurs que c'est parce qu'il y a recréation permanente qu'on peut expliquer qu'on peut faire tshuva. Parce qu'on peut ne pas accepter de répéter, de se placer en continuité, en suite de ce qu'on a fait hier. Donc on peut rompre avec ce qu'on était dans le passé. Puisqu'il s'agit à chaque fois d'une recréation. La première faute d'Adam Arishon, c'est une faute de Hakarat HaTov. C'est, comme disent Chazal, que Adam Arishon était Kafui Tova. Cette idée de d'Hakarat HaTov, de l'obligation dans laquelle on est pour être à la hauteur simplement de l'humain, quoi. Hakarat HaTov, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On voit même dans la nature des cas d'Hakarat HaTov. On voit des animaux qui sont Makir Tova, pour ce que d'autres, les hommes par exemple, ont fait pour eux. L'Hakarat HaTov, à l'intérieur de toute société, à l'intérieur de la société minimale qu'est la famille, ou à l'intérieur, plus généralement, du Klal Israël, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Alors, bien entendu, Akadosh Baruch Hu a créé, parler des hommes, des êtres humains, il a créé des êtres humains qui ont tous en commun d'être des êtres humains, mais qui sont tous différents. Tous différents, ils ont tous un rôle différent à jouer dans le monde. Et bien entendu, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit savoir qu'il a un rôle fondamental, mais que par conséquent, l'autre aussi, il a un rôle fondamental, aussi fondamental que le mien. qu'en réalité, on doit comprendre que, disons, à l'échelle du clan Israël en particulier, il s'agit de d'apprécier en quelque sorte le rôle de l'autre. Et même si c'est son rôle d'être malgré tout Makir Tova pour ce qu'il fait. Le Rav Volbi était toujours makpid de faire remarquer qu'on ne doit jamais considérer que ce que l'autre fait, ben, il fait ce qu'il a à faire. Donc, si dans ce qu'il a à faire, il fait quelque chose dont je bénéficie, la tendance naturelle, c'est de dire, ben, il a fait son job, c'est tout. On va pas en faire un plat. Mais pas du tout, on doit être Makir Tova. Chazal disent que si quelqu'un vous ouvre une porte, vous lui devez la vie quasiment. Cette notion d'Akaratatov, de reconnaître que c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une famille. Pas considérer que chacun, bon, fait ce, chacun jouait son rôle. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Si, justement. Il y a cette notion d'Akaratato. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, et qu'on fait son éloge à la fin de sa vie, et ce qu'on dit de la grandeur de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait de si grand? C'est qu'il a brisé les louchot. Mais comment est-ce qu'on peut dire, Moshe Rabbeinu nous a quasiment sorti d'Égypte, etc., reçu la Torah, etc., pas du tout. Ce qu'on retient dans l'éloge de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a, il a brisé les louchot. Ça paraît étrange, mais il faut savoir que si on regarde bien, on voit que d'une certaine manière, c'est grâce à la brisure des louchot qu'on a eu Yom Kippour. Il y a eu ce fameux retour des Anané Kavod qui donne Soukhot. Sans ça, sans cette affaire-là, on ne grandit pas. Il n'y avait pas eu ça, on a reçu les louchot et on a eu un paysage tout tranquille. Bien entendu, rien n'est fait en vain. Il faut admettre qu'Hachem a donné l'occasion de briser les louchot. Et donc de fabriquer Yom Kippour, si vous voulez. C'est très difficile à admettre. On vit dans un monde זה מחלוקת. חז"ל אומרים מים פנים אל פנים, פנים אל פנים, סתדיר. En fait, on explique, l'eau c'est comme un miroir. Si tu souris, l'eau va te renvoyer un sourire. En fait. Et par conséquent, il s'agit de pouvoir envoyer des sourires, en fait. Il s'agit de fabriquer de l'unité. De lutter contre la tendance de la makhloket. Une des tendances de la makhloket, c'est que Hazal disent compare ce qui se passait au temps de David Hameler et ce qui se passait au temps du roi Achav. Au temps de David Hameler, les gens faisaient des mitzvot, ils étudiaient, etc. Et quand ils faisaient la guerre, ils perdaient la guerre. Ou ils perdaient des gens dans la guerre. Et le roi Achav, qui était un grand idolâtre, entouré d'idolâtres, il faisait la guerre et il gagnait. Hazal disent la différence, c'est que du temps de David Hameler, il y avait des délateurs. Du temps d'Achav, il n'y avait pas de délateurs. Vous savez bien que Moshe Rabbeinu avait une question en Égypte. Il se demandait, mais pourquoi les Bnei Israël souffrent-ils plus que les autres? Et quand il a vu que Datan et Aviram étaient des délateurs, il a dit, j'ai plus de questions. Parce que quand il y a des délateurs, quand il y a en général du Lashon Hara, ça casse la société. Ça casse l'unité. Et un clan Israël qui n'a pas d'unité, ce n'est pas un clan. Si le clan Israël ne parvient pas à conserver son unité, il n'existe plus. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sorti d'Égypte des individus. Il n'est pas intéressé par les individus. Il est intéressé par le clan Israël. Alors, bien sûr qu'il s'intéresse à ceux qui composent le clan Israël. Mais uniquement parce qu'il compose le clan Israël. Donc, quand il y a une machloket, bien entendu, on ne parle pas d'une machloket au niveau de la halakha, c'est une milchamta shel Torah. Quand il y a une machloket, on a cassé le clan Israël. dans les circonstances dans lesquelles nous sommes en ce moment, il y a une manifestation a priori, une grande unité, d'une unité retrouvée en fait. Elle fait suite à une immense marloquette extrêmement grave. Les gens pensaient partager le clan d'Israël en deux. Pour ne rien dire de ce que une des deux parties aurait été, c'est-à-dire sans aucune référence à la Torah, sans aucune référence à l'histoire, dans l'illusion de pouvoir être un peuple comme les autres. Et on peut voir que une des conséquences, je ne sais pas interpréter les choses, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dû fabriquer, nous obliger à fabriquer de l'unité, à refabriquer de l'unité. Et l'unité pour se fabriquer, elle a besoin de quelque chose qui, un espèce de ciment, fabriquer cette unité. Et le ciment en question, c'est la Hakarat HaTov. Reconnaître que ce que l'autre fait doit lui être reconnaissant de ce qu'il fait. Tu dois apprécier ce que l'autre fait. On rappelle toujours l'attitude de Ephraim Shmulevitz après la guerre. Guerre des six jours. Il était makpid de manifester sa Hakarat HaTov pour tous ceux qui ont risqué leur vie, ceux qui se sont battus, etc. Manifester sa Hakarat HaTov. Même si ces gens ne sont pas du même bord, ils sont religieux ou ils ont joué un rôle important, ils ont joué le rôle, un rôle qui a été fondamental. Ils se sont exposés pour cela. C'est vrai que d'après la Torah, nous savons qu'en réalité, les choses dépendent, plutôt, ne dépendent pas que, ou peut-être même pas du tout vraiment, il y avait du sort des armes en quelque sorte. Ce qui est important, c'est de reconnaître qu'en fait, les choses dépendent d'Akadosh Baruch Hu, en fait. Chazal, quand il parle de la Géoula, il utilise deux termes. Un premier terme qui est naissance, et un deuxième terme qui est donc la notion de Brit, enfin, plutôt de l'Eda, et de Tzmicha, c'est-à-dire de croissance. Faut bien prendre conscience que dans la Tzmicha, dans le processus de croissance, c'est la croissance végétale par exemple, ça passe par une destruction de la semence qui est totalement détruite. C'est-à-dire que la Géoula n'est pas possible si on est orgueilleux. Dans l'orgueil, il n'y a pas de possibilité de Géoula. Donc, ce problème de l'orgueil, c'est évidemment combien c'est grave. L'orgueil, comme je vous dis, l'orgueilleux, lui et moi, on n'a pas la place dans le même monde. Donc, une manifestation d'orgueil, de gavard, de tout ce qui ressemble à cela, c'est une façon de chasser Hachem du monde. De dire, on n'a pas besoin de toi. On se débrouille tout seul. On a la meilleure armée. On a les meilleurs services secrets. Donc ça va sans dire que les démarches d'orgueil, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et pour aller dans le sens de l'unité, effectivement, s'il y a de l'orgueil, il n'y a pas de place pour l'unité, etc. non plus. Le Rambam dans Hilchot Teshuvah, quand il parle de ce qui entraîne la perte du Olam Haba, alors il y a la liste des grandes fautes, effectivement, et à la fin, le Rambam écrit, il y a aussi celui qui est Poresh Midarkei Hatzibur, celui qui se sépare des chemins empruntés par le tzibbour. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller bedarkei tzibbour? C'est l'ishtatef, c'est s'associer. S'associer aux autres. S'associer aux autres dans leur souffrance. Si ça s'associer aux autres dans leur joie aussi. S'associer à la souffrance des gens. C'est essayer de se représenter la souffrance des autres. essayer de se la représenter réellement. Pas simplement se raconter des histoires. La rabbinite, finalement, elle a raconté que pendant la guerre de Kippour, elle s'est aperçue que Rammstein il dormait par terre. Elle a demandé qu'est-ce qu'il faisait par terre. Il a dit, les soldats, ils dorment par terre, ils sont exposés, etc. Je peux pas aller dormir confortablement dans un lit. Faut expérimenter dans la mesure du possible. Expérimenter. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment s'investir dans cela. Mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de yush. On est obligé, pour servir Hachem, parce que tout ce processus-là doit être fait pour servir Hachem. Mahou rachoum, afata rachoum. Or, servir Hachem, ça ne peut être fait que de Simcha. Il faut être nosé beol, porter sa charge avec l'autre. Mais sans supprimer la simcha. Mais il s'agit de la simcha chez le mitzvah. La simcha chez le mitzvah, elle est tout à fait possible, même dans une période comme celle-ci. Parce que la simcha shel mitzvah, c'est pas se réjouir n'importe comment. C'est être à la fois complètement investi dans la tâche, l'obligation qu'on a de participer, de ne pas être poresh midarkei hatzibur. Essayer de se représenter les souffrances de l'autre. Mais quand il y a une mitzvah à faire, il faut faire la mitzvah comme elle doit être faite. Ça n'abolit pas les mitzvot. Et une mitzvah ne peut pas se faire sans la simcha. Mais il faut réfléchir sur ce que c'est qu'une simcha chez le mitzvah. C'est pas une excitation simplement. Pas une rave party. Il y a une Gemara qui dit, je vais le dire directement en français, que une année où on n'a pas sonné le shofar à Rosh Hashanah, c'est une année qui risque de mal se passer. Nous, cette année, on n'a pas sonné le shofar à Rosh Hashanah. Shofar qu'on a sonné, c'est le deuxième jour. C'est pas la mitzvah de shofar du premier jour de Rosh Hashanah. Dans un drasha de Azinu, je crois. Le Rav Sternbuch avait dit qu'en fait, on doit s'interroger, Chazal s'interroge déjà, comment se fait-il que les Chachamim, puisque c'est comme ça, comment est-ce qu'ils ont pu décider qu'on n'allait pas sonner du shofar? Halakhiquement, on comprend, ils peuvent, c'est chef Valta assez. Mais comment est-ce qu'ils peuvent nous mettre, se mettre avec nous, quoi, dans une situation comme celle-là? Alors, une des réponses que Chazal donne, c'est que le Shabbat va remplacer ce que le shofar va nous donner. Mais il expliquait que ça implique que cette année-là, il faut s'investir particulièrement dans Shabbat. Parce qu'il s'agit de faire en plus du travail que tout le Shabbat, que chaque Shabbat, on doit faire, il faut aussi faire cette compensation pour la tkiyat shofar qui n'a pas eu lieu. Donc, une des choses sur lesquelles il faut être tout particulièrement attentif, faut toujours faire attention pour Shabbat. Mais là, il y a encore une dimension supplémentaire du Shabbat. Et bien entendu, la question de savoir qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Dans Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volozhin explique que dans le quatrième char, explique que l'étude de la Torah, ce n'est pas simplement une bonne chose. L'étude de la Torah, ça peut faire pencher le monde d'un côté ou de l'autre. Toute mitzvah a un impact. Mais l'étude de la Torah, c'est tout à fait particulier. Keneged kulam. Ça peut sauver aussi les vies. Il faut savoir que quand on étudie, c'est pas simplement qu'on est en train de faire la mitzvah d'étudier. C'est qu'on fait quelque chose qui fait tenir le monde en réalité. Qui sauve le monde. Pendant le mois de Tishri, pas encore terminé, mais c'est un mois plein de tfilot, de simcha. Hachem, disent Chazal, ils le disent sur le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, il est appelé, pour d'autres raisons aussi, il est appelé Mar Cheshvan. Il y a un côté amer, mais une des raisons, c'est que il n'y a pas de Yamim Tovim, il n'y a pas de jour spécial dans le mois de Cheshvan. Mais c'est le mois de Cheshvan, Hachem nous teste pour savoir ce que nous avons pris avec, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a, en quoi est-ce qu'on s'est enrichi avec les Yamim Tovim qu'on a vécu, avec Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Le Chazonish disait, être inspiré à Yom Tov, c'est normal. Mais ce qui est important, c'est de l'être après Yom Tov. Dans la Soukha, on s'est exposé, en quelque sorte. Bien comprendre que sans Hachem, rien n'est possible. Mais le Nissayon d'aujourd'hui, l'épreuve d'aujourd'hui, l'épreuve du clan Israël d'aujourd'hui, c'est pas l'épreuve de Soukhot. La vraie soukha, c'est maintenant. C'est maintenant avoir, c'est maintenant les problèmes d'Emouna. C'est connu que le Rav de Brisk, d'ordinaire, il était assez nerveux pour être. Et on a raconté que quand il était dans le ghetto, pendant la guerre, il avait une menuchat hanefesh complète. Il était complètement serein. Et quelqu'un a eu la chutzpah de lui demander comment c'est possible. Alors il a dit, j'apparais comme quelqu'un nerveux, c'est quand les choses sont dans ma main et je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. C'est pour ça que j'en pense que je suis un peu nerveux. Mais quand je vois que je peux rien faire du tout, que c'est entièrement Hachem qui guide, j'ai confiance. Hachem nous aime, j'ai pas de raison d'être nerveux. Il disait, quand on a de l'argent en banque, c'est facile d'avoir Emouna. Mais l'important, c'est d'avoir Emouna quand il n'y a pas d'argent en banque. Quelque chose s'est vraiment passé là. Où se passe. Des guerres, il y en a eu. Certaines ont commencé effectivement aussi de façon extrêmement négative. Mais comme ce début-là, c'est peut-être jamais arrivé avec une ampleur pareille. Et Ishmaël qui a voulu montrer qu'il était capable de faire des pogroms lui aussi. Visiblement, un aveuglement. Il y a un Midrash dans le Yalkut Shimoni. Il dit, je pose la question de qu'est-ce qui se passe quand tu vois que quelque chose se passe? Et ça semble être le contraire de la Torah. Alors, elle dit, on n'a pas le droit de faire la shrita, par exemple, d'une brebis et de son agneau le même jour. Pasuk dit, ici, on a vu tout ça, c'était transgressé largement. Comment est-ce que c'est possible? Moment de Maaseh Bereshit, la première occurrence de Adam dans le texte, elle est sous forme de son absence. Comme vous savez, les végétaux ont poussé, mais ils n'ont pas poussé dans la partie aérienne. Ils ont jusqu'à ce que ça affleure. Après, ça n'a plus poussé. La Torah dit parce que il n'y avait pas d'homme, la vode. Il n'y avait pas d'homme pour faire le travail. Chazal disent, c'est le travail, qu'est-ce que c'est le travail? Avoda. Adam Aïn, donc, il n'y a pas d'homme pour le faire. L'avoda en question, c'est la tfila. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'homme pour prier. Pour qu'Hachem envoie la pluie. Mais quand l'homme est arrivé, il a pu prier, ça a poussé. En vérité, la création de l'homme, elle s'est faite, Chazal disent, avec afar et la pluie. Il a fallu pétrir cela avec l'eau de pluie, pas l'eau des quatre fleuves. Parce que l'eau de la pluie, elle vient de la tfila, elle vient de la prière. Le mot Adam, si on l'écrit avec le milouï, c'est-à-dire si on écrit Aleph, Aleph Lamed Pe, et Dalet Lamed Tav, et même, et qu'on enlève Adam, les premières lettres, ce qui reste là, ce milouï, ça s'appelle, c'est la gématria de Mitpalel. L'homme est défini comme un être qui prie. Dans la Mishnah de Bava Kamma déjà, Mavé et Adam. Pourquoi? Parce que il prie. L'homme est défini comme priant. Donc si on se demande qu'est-ce qu'on peut faire? Je rapportais qu'il faut étudier, mais il faut prier aussi. Prier aussi, ça doit se faire avec Simcha. C'est un privilège absolument extraordinaire que de pouvoir prier Hachem et de pouvoir étudier la Torah d'Hachem. C'est un privilège. Hachem m'a donné ça aux hommes, au peuple d'Israël. Avec toute la puissance qui va avec cette prière et avec cette étude. À Soukhot, on parle de la fin des temps, on parle de la guerre de Gog et Magog, on parle de Révélé Mashiach. Dit, il y avait comme une condition absolue pour qu'il y ait une Géoula. La même manière que la graine, la semence, est complètement détruite, pour qu'il y ait Géoula, il faut que l'homme s'écrase. S'écraser seulement devant Hachem, pas devant les hommes. Mais devant Hachem. Et dès le moment où les gens s'imaginent, où les hommes s'imaginent qu'ils peuvent les faire les choses à eux tout seuls. Alors, ça donne des désastres. Dans les korbanot, une des formes les plus élevées, c'est le ktoret, comme chacun sait. Dans le ktoret, les parfums qu'on va brûler, il y a 10 parfums plus un. Il y a le fameux Khelbena, qui lui est un peu à l'extérieur, parce qu'évidemment, ce dont on a besoin, c'est 10. Celui-là, il est ce Khelbena qui a une mauvaise odeur. Le Ktoret, comme chacun sait, ce qu'on approche avec le Ktoret, c'est la conséquence de ce qu'on a brûlé justement, ces parfums, ce Ktoret. La Khelbena, qui a une mauvaise odeur, elle est nécessaire. Elle est souhaitée quand ça va brûler. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on brûle? On brûle pour en tirer l'essentiel et le faire disparaître, séparer la partie qui ne sert à rien, sert plus à rien quand on a. En fait, brûler, ça veut dire faire tchouva, en fait. On avait dit rocher, c'est les maasim des rechaïm. Je répète, c'est les maasim, c'est pas les rechaïm. Il faut brûler les maasim des rechaïm. Faire disparaître les maasim de Rechaim. C'est-à-dire faire tchouva. C'est une condition, effectivement. Pour s'approcher d'Hachem de la façon la plus élevée qui soit. Regardez, c'est uniquement l'odeur, en fait, le nuage de d'odeur. Faire disparaître les maasim, les maasim même des rechaïm, c'est obliger tout le monde, donc le côté rechaïm qui existe un peu chez chacun, que cette partie-là disparaisse. Et ça ne se fait que quand on prend vraiment conscience de la condition humaine. Et parfois, quand je beaucoup est obligé de nous aider. À comprendre ce qu'on a à faire en tant que clan Israël. Il est obligé de nous obliger, il est obligé de susciter quasiment cette unité. On n'est pas capable de le faire de nous-mêmes. Alors, il faut y être amené par des éléments extérieurs. Le modèle. Beaucoup nous donnent toujours des modèles. Le modèle de la fabrication de l'unité en question. Ce modèle-là, c'est Pourim. À Pourim, Esther, avant de faire sa démarche, elle a demandé qu'on fasse quelque chose en commun. Tout moi là. Tout le monde va jeûner ensemble. C'est une chose qu'on a faite ensemble. C'est une condition sine qua non pour que elle représente le peuple. S'il n'y avait pas d'unité, ben elle est personne. Elle est la reine, mais c'est tout. Elle ne peut pas parler au nom de son peuple. Il n'y a pas de peuple quand le peuple n'est pas uni. Elle n'a pas fabriqué cette unité. Les Bnei Israël, à l'époque de Pourim, comme on voit dans la Gemara, ils ont été quittes pour la peur. On n'est pas toujours quittes pour la peur. Parfois, ça passe par quelque chose de bien plus douloureux. Ce qui s'est passé maintenant, c'est quelque chose dont, par son ampleur, à part pendant la Shoah, ça s'est jamais passé. Il y avait des pogroms, mais ça n'avait pas cette ampleur-là. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont sur place. Et on voit bien qu'il y a toutes sortes de manifestations, ici même à Paris aussi. Donc la nécessité de fabriquer ce klal, elle est à ce point impérative, il faut croire qu'on était dans une situation suffisamment grave de manque d'unité, justement. Pour que les choses doivent se faire avec cette ampleur-là. Pasunich a dit que l'étude c'est plus important, plus efficace que les taniot ou quoi que ce soit d'autre. Ceux qui peuvent étudier doivent étudier. Et ceux qui peuvent étudier un peu plus doivent faire un peu plus. On a l'habitude, d'un milieu en tout cas, de prendre sur soi quelque chose, de payer de sa personne en quelque sorte. Il faut prendre des petites choses, parce que les petites choses, on est capable de le faire. Les grandes choses, le Yetzirara, il dit, tu peux prendre tout ce que tu veux. De toute manière, ça ne durera pas très longtemps. Par contre, si on prend une petite chose qui est facile à faire, elle peut durer toute une vie. Que pour le dire en termes de limoud, il ne faut pas dire je vais étudier 5 heures de plus par jour. Il y a peu de monde qui peut se permettre d'étudier 5 heures de plus que par jour. Mais peut-être que une demi-heure, c'est possible. Si on ne peut pas une demi-heure, il faut faire un quart d'heure, mais. Faire quelque chose, ça veut dire, comme je l'ai dit, ça veut dire payer de sa personne. Chacun sait comment il peut payer de sa personne. J'ai dit ici, c'est ce qui va pour tout le monde, a priori. Si quelqu'un fait autrement, il peut faire aussi autrement, bien entendu. Donc, il faut faire particulièrement attention au Shabbat. Cette année, tout particulièrement. Il faut s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Comment on peut aider? On peut aider certaines personnes. Peut-être en leur accordant un sourire, ou un bonjour ou un bonsoir, je ne sais pas. Tout le monde sait que ça peut changer la vie de quelqu'un. S'intéresser aux autres. Comment on peut les aider réellement? Pas prendre leur place, mais les aider.